12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, bonjour Anissa.
Et bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et aujourd'hui on vous emmène à la Clean Tech Week, direction Annecy, où la deuxième édition débute cette semaine, clean comme propre, tech comme technologie, et vous allez voir que les Français sont à l'honneur quand il s'agit d'innovation verte. Rendez-vous dès 13h, juste après votre grand journal.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Ce matin, les bacheliers ont planché sur les épreuves de philo.
Oui, et ils ressortent avec le crâne qui fume encore. 554 000 candidats qui ont dû faire le choix entre des sujets pas simples et en même temps très actuels qui reflètent vraiment l'actualité de nos jours. Nous entendrons leurs premières réactions et puis nous serons en ligne avec Marianne Chaillant, elle est prof de philo à Marseille, et nous passerons en revue avec elle quelques-uns de ces sujets. L'autre actualité du jour, c'est la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval. En milieu de matinée, son mari Jonathan, qui a avoué le meurtre, a été transporté au Bois des Moulins où le corps avait été retrouvé partiellement calciné. Nous sommes sur place. Dans ce journal également, Didier Guillaume veut rassurer les agriculteurs après les intempéries exceptionnelles de samedi. Le lancement officiel du service national universel. Nous serons dans le lycée de Tourcoing qui avait trouvé le logo pour ce SNU. Un Caravage en vente à Toulouse. Est-il vrai? Est-il faux? C'est toute la question. Et Neymar sur le départ du PSG. Oui, et d'ailleurs, c'est ça la nouveauté, le club parisien n'est pas forcément contre. La météo, Elena Morna, c'est donc la plus belle journée de la semaine.
C'est aujourd'hui le ciel bleu et des températures estivales. Un seul bémol cet après-midi sur la Bretagne et les bords de Manche, avec un peu plus de nuages, c'est vrai. D'autres nuages en fin de journée, une petite averse possible sur les Pyrénées-Orientales ou encore sur les Alpes.
Merci Elena, météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Le bac, Pierre, avec aujourd'hui évidemment la philo pour les terminales, le français pour les premières. Ils étaient un peu plus de 550 000 à passer la philo.
Avec des sujets qu'on détaillera dans un instant, peu ou pas de perturbations malgré un appel à la grève. On a les tout derniers chiffres avec le communiqué de presse du ministère de l'Éducation nationale. 5,40% pour la moyenne pondérée des enseignants du second degré. Lyon, rassemblement d'enseignants grévistes à 9h30 ce matin devant le rectorat. Situation similaire à Toulouse, Marseille, Grenoble, Dijon et Rouen, avec en plus quelques piquets de grève, par exemple à Pantin et à Créteil en région parisienne. Partons recueillir la réaction des jeunes bacheliers dont on imagine les neurones vibrent encore. C'est à Paris, au lycée Claude Monet, dans le 13e, et c'est au micro de Yasmina Katou.
J'ai foiré parce que d'après eux, j'ai pas fait un bon plan. Dans l'explication de texte, j'ai dit qu'il existait plusieurs vérités et non pas qu'une seule. C'est ça ?
Bah oui, parce que la religion, c'est un dogme avec une seule vérité imposée, alors que les sciences, c'est plusieurs vérités qui sont factuelles, éprouvées et elles sont changeantes. Alors que le dogme, il reste le même.
Bon, j'ai pas trop...
En gros, c'est bien ce que t'as dit.
Ok, bah c'est bon alors. Je pense avoir la moyenne.
Est-il possible d'échapper au temps ? Bah, ma première partie, c'était « Le temps est une prison pour l'homme », la mort, etc. Et deuxième partie, c'était « Pourtant, on peut quand même un peu s'en défaire avec une certaine autonomie, genre substance psychotrope ou vivre en autarcie ou alors des vacances, etc. »
T'as cité quel philosophe ?
Personne, j'ai cité moi-même, c'était bien déjà, satisfaite, non.
Et parfois les élèves
sont eux-mêmes
philosophes, bien sûr. Propos recueillis par Yasmina Katou pour Europe 1. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour.
Vous êtes prof de philo à Marseille, vous avez le sourire parce que vous entendez
oui.
les élèves peuvent être philosophes, et je pense que vous êtes d'accord avec ça. Vous avez en tout cas surveillé ce matin pendant 4 heures ces épreuves.
Tout à fait.
Et en même temps, pour nous, et ça c'est vraiment le cadeau que vous nous faites sur Europe 1, vous avez planché également. Ensemble, nous avons choisi 3 sujets.
Et on va commencer, Marianne Chaillant, si vous le voulez bien, par le sujet numéro 1 de la filière ES. La morale est-elle la meilleure des politiques? Vous avez 2 minutes.
Alors déjà, je voudrais rassurer, parce qu'on a entendu les élèves dire « Oh là là, c'est pas ça le plan, il n'y a pas un plan qui est attendu. Celui que je vais vous proposer, c'en est un parmi d'autres. Donc que vos auditeurs se rassurent, ce que je vais dire n'est pas ce qui était attendu, mais ce qui était possible de dire. Et donc, on pourrait d'abord se dire qu'effectivement, on voit mal comment on pourrait soutenir l'inverse, à savoir qu'un État doit être parfaitement immoral. On se dit qu'un État moral est plus souhaitable qu'un État crapuleux, non ?
Oui.
Et pourtant, on se dit peut-être aussi que celui qui gouvernerait avec morale serait peut-être menacé par sa vertu même. Vous sentez venir un philosophe qui s'appelle Machiavel et qui nous explique qu'un bon dirigeant, s'il veut rester au pouvoir, doit savoir entrer dans le mal. Mmh. Le prince, exactement. et vous avez réussi votre bac philo, vous dites donc.
Non, pas de commentaires sur moi. Parlons-nous des
sujets.
Et donc, il y aurait autre chose à dire, c'est que du point de vue des citoyens, c'est pas sûr non plus qu'un État moralisateur soit plus souhaitable. Peut-être que ça serait au contraire un État particulièrement despotique. Donc, que ce soit du point de vue des gouvernants comme de celui des citoyens, il n'est pas du tout certain que la morale soit la meilleure des politiques. Du coup, bon, on aurait pu envisager une première partie dans laquelle Machiavel aurait expliqué à quel point les gouvernants doivent entrer dans l'immoralité. Ensuite, on aurait pu aller voir du côté d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, ouais, et qui défend, lui, qu'un État qui aurait pour politique d'édicter la morale serait le plus grand despotisme. Et peut-être que les bacheliers qui regardent la série La Servante écarlate auraient pu se servir de cette série comme exemple où on a un État qui est le paroxysme de l'État qui se veut législateur moral. Et puis enfin,
on a le droit de citer une série, de citer quelque chose de plus actuel que voilà. Kant,
Vous le faites régulièrement d'ailleurs, Marianne.
Vous voyez, j'ai cité Kant, et puis pour donner un exemple concret de la philosophie de Kant, je vais voir La Servante écarlate. Ce n'est pas interdit du tout. Au contraire, ça rend les choses très concrètes, très réelles.
Alors,
et très vivante.
Il faut qu'on avance un peu plus vite. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour le sujet du bac scientifique, mais on va faire celui du bac littéraire. Moi, j'ai bien aimé. À quoi bon expliquer une œuvre d'art ?
Ben, ce sujet, ça nous interroge quant à la possibilité de rendre raison de ce qui fait qu'une œuvre d'art s'en est une. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a des critères dont la présence dans une œuvre en fonde la valeur ? Si c'est le cas, alors on peut expliquer une œuvre d'art et ça nous permet d'augmenter notre connaissance comme notre plaisir. Mais si ce n'est pas du tout le cas, si une œuvre d'art, ce qui la fonde, c'est sa capacité à émouvoir. Alors on ne voit pas à quoi bon l'expliquer. C'est impossible, puisque l'œuvre d'art serait inexplicable. Il faudrait l'éprouver et non pas prouver quelque chose à son égard. Et ça pourrait même être contre-productif. Peut-être qu'en analysant l'émotion, on la dénaturerait. Mmh. Et là, on peut aller chercher, encore une fois, du côté de Kant, du côté de David Hume, ou même, pour un film, le cercle des poètes disparus.
Une œuvre d'art, est-ce que c'est subjectif ou objectif ? C'est ça, toute la question.
Vous voyez, c'est ça l'idée. Ah ouais, et du coup, difficile. Si c'est objectif, on peut l'expliquer. Mais si c'est subjectif, à quoi bon ? C'est vrai. Voilà.
Et le à quoi bon ? Parce qu'on a eu un débat, nous, interne, sur le à quoi bon ce matin.
Alors, les débats, c'est signe que vous pensez, que vous faites de la philosophie, et bravo. Et alors, le à quoi bon, il est lié à ça. C'est-à-dire, à quoi bon, ça nous interroge sur la raison. S'il y a des critères, à quoi bon, ça permet d'augmenter notre connaissance, d'éprouver plus de plaisir. Mais si l'œuvre d'art, c'est uniquement des sentiments, c'est subjectif, à quoi bon, ça devient, effectivement, ça ne sert à rien.
Ben oui.
Au contraire, ça
mais
peut même
grave.
Dénaturer les choses.
C'est pas grave si ça sert à rien. Parce qu'il y a l'utile et le plaisir. Bon, enfin bon,
Je sens qu'il se lance dans un débat philosophique.
On fera une émission d'une heure avec vous, Marianne Chaillant, parce que c'est passionnant. En tout cas, merci pour vos lumières sur ces sujets hautement d'actualité.
Il est 12h37 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et nous vous le disions en titre, Pierre, l'autre grand sujet d'actualité aujourd'hui, c'est cette reconstitution du meurtre d'Alexia Daval. C'était à Grès, en Haute-Saône. Son corps, souvenez-vous, avait été retrouvé fin octobre 2017.
Et c'est son mari, Jonathan Daval, qui avait avoué le meurtre de sa femme. Après, on s'en souvient, un long silence et des battues pour tenter, soi-disant, de la retrouver. Reconstitution, donc ce matin, ça a commencé à 5h au pavillon conjugal. Et en milieu de matinée, Jonathan Daval a été transféré au Bois des Moulins, là où le corps de la jeune femme avait été retrouvé partiellement calciné. Arthur Mbaché, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Vous êtes justement dans ce Bois des Moulins où cette deuxième partie de reconstitution touche à sa fin.
Ça fait 7h30 maintenant que cette reconstitution a commencé et les enquêteurs, les avocats, les experts, Jonathan Daval, la famille d'Alexia sont depuis 3h dans le Bois des Moulins pour cette deuxième séquence. Alors la presse est maintenue à près d'un kilomètre du lieu où le corps d'Alexia a été retrouvé. Aucune info, disons-le, sur ce qui se passe, ce qui se dit maintenant dans la forêt que j'ai en face de moi au loin. Je vous rappelle l'enjeu de cette partie de la reconstitution, essayer de savoir qui a mis le feu au cadavre de la jeune femme il y a un an et demi, Jonathan Daval ayant avoué avoir transporté le corps jusqu'ici, mais pas la crémation ou le début de crémation. Pour cette reconstitution, les enquêteurs procèdent geste par geste, photographient tout, maintenant dans le bois, comme ils l'ont fait dès 5h du matin dans la maison du couple Daval, où Jonathan et une gendarme ont dû rejouer la scène de la bagarre mortelle entre les époux, sous les yeux du médecin légiste, pour essayer d'y voir plus clair sur la volonté ou non de l'accusé de tuer Alexia cette nuit d'octobre 2017.
Merci Arthur Mbaché au Bois des Moulins en Haute-Saône.
Et à l'instant, le procureur est en train de s'exprimer, procureur de la République de Besançon. Il explique que cette reconstitution était nécessaire, Pierre, pour mettre le mis en examen face à des incohérences.
Christophe Castaner lance une réflexion sur le maintien de l'ordre après 7 mois de crise, comme il dit, des gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur a demandé à tous les acteurs du maintien de l'ordre des idées audacieuses pour, dit-il, répondre fermement à une violence débridée.
Didier Guillaume, au secours d'agriculteurs victimes des intempéries. C'était ce week-end.
Intempéries particulièrement violentes samedi qui ont détruit des exploitations de toutes sortes dans la Drôme, mais aussi en Isère. Le ministre de l'Agriculture pourrait dès demain déclarer l'état de catastrophe naturelle qui permet à tous ces professionnels d'être mieux indemnisés. Jean-Luc Boujon, vous vous trouvez à Montagne en Isère, chez des récoltants de noix, exploitation nucicole littéralement ravagée.
Ah oui, il faut voir ces innombrables noyers couchés à terre, déracinés, littéralement arrachés suite à cet orage de grêle qui n'a duré que 20 minutes samedi après-midi, mais qui a été d'une violence rare. Un spectacle très impressionnant, très triste aussi, un vrai crève-cœur pour ces deux producteurs, Serge Achard et Daniel Guinard.
Moi j'ai 350 noyers par terre sur 18 hectares, c'est tout perdu. Il n'y a plus rien, ça ne vaut plus rien une propriété que c'est tout par terre. L'horreur, l'horreur. J'ai jamais eu ça de ma vie. Moi.
Ça a été si fort que ça, là, l'orage ?
Comme des balles de tennis. Ça soulevait les toits, ça a tout cassé. C'est moi qui ai planté et je suis obligé d'arracher aujourd'hui. C'est 60 novembre. Je vais pleurer pendant 2-3 jours. Ça va être dur. Hein.
J'ai 180 noyers qui sont par terre, plus toutes les céréales. On ne livre à rien, ni en noix, ni en céréales. Il n'y a pas un centime qui va rentrer. Quoi, là. C'est très dur.
Alors, en plus des arbres arrachés, toutes les noix sont à terre, ce qui veut dire effectivement pas de revenus cette année pour ces producteurs. Et ils sont des dizaines dans ce cas, dans ce secteur réputé, hein, pour ces noyers environ 40 km de Grenoble, d'où une attente très forte vis-à-vis de l'État et donc du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui est arrivé sur place tout à l'heure.
La situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Là, il y a une situation exceptionnelle. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des réponses pour que les choses puissent aller plus vite. Mais on voulait vraiment vous exprimer tout notre soutien.
Voilà, hein, le ministre qui est en train de se rendre compte par lui-même des dégâts, qui fera des annonces tout à l'heure, peut-être un déblocage d'aide d'urgence. C'est ce que souhaitent en tout cas ici les producteurs de noix.
Eh bien, merci Jean-Luc Boujon à Montagne, dans l'Isère, pour Europe 1.
Il est 12h41.
Europe 1. Restez avec nous, on va marquer une pause et dans un instant, le coup d'envoi du service national universel. A tout de suite.
Il est 12h44 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
C'est donc aujourd'hui qu'une volonté très forte du chef de l'État se réalise, Pierre, le retour du service militaire.
Ouais, qu'on appelle aujourd'hui SNU, le service national universel. 2000 jeunes de 16 ans commencent une période de 15 jours. Première expérimentation répartie dans 13 départements pilotes. Et direction Tourcoing, le lycée Le Corbusier. Ce sont les élèves de ce lycée qui ont dessiné le logo du SNU. Mathieu Bock, vous êtes sur place avec 93 élèves, tout de même impressionnés, hein.
Oui, en tout, ils sont 93 jeunes âgés de 15 à 16 ans venus de toute la France, vêtus du pantalon bleu marine et du polo blanc réglementaire, casquette officielle vissée sur la tête. Ils ont débuté cette journée par le lever du drapeau et par la Marseillaise a cappella, emmenée par les nombreux encadrants. Puis par petits groupes, ils se sont timidement présentés face aux différents ministres.
Si j'ai fait le SNU, c'est pour faire de belles rencontres et visiter d'autres régions pour en apprendre plus et pour me rendre utile pour l'État.
Bah déjà, ça va changer de mon habitude, puisque je vais faire plein de choses, je vais faire connaissance avec des gens que je ne connais pas.
Gabriel Attal, le secrétaire d'État chargé de ce SNU, a félicité dans son discours ces jeunes de s'être portés volontaires pour cette première.
Vous êtes les pionniers de ce service national universel. Vous êtes là parce que vous avez envie d'apporter votre pierre, d'aider les autres, l'envie de savoir aussi comment réagir en cas de situation qui vous amènerait peut-être à devoir aider les autres. Pour toutes ces raisons-là, vous êtes ici aujourd'hui autour de cette belle idée de l'engagement.
Puis c'est un programme très large qui attend ces jeunes, des cours de self-défense, des visites de musées ou encore une initiation aux gestes de premier secours. En tout, ce premier SNU durera 2 semaines.
Merci Mathieu Bock à Tourcoing pour Europe 1. Et puis il y a ceux qui rêvent d'être militaires. Nous vous narrions ce matin le cas de cet ado de 15 ans dans le Puy-de-Dôme qui est parti pour son SNU. Eh bien, le Salon du Bourget ouvre ses portes aux professionnels aujourd'hui. Comme d'habitude, le président Macron a inauguré ce rendez-vous. La France en partenariat avec les pays européens qui planchent notamment sur celui qui pourrait succéder au Rafale à horizon 2040.
Mais ça n'est pas tout, Pierre, car la France passe aussi à l'offensive dans le spatial. Face à de nouvelles menaces, il a bien fallu trouver de nouvelles armes comme des lasers, pas de la science-fiction. C'est tout à fait réel, Aude Leroy.
L'espace est le prochain champ de bataille. Depuis 5 ans, ça s'accélère. De plus en plus d'armes l'envahissent. Et ça y est, c'est officiel. La France planche sur un laser ultra-puissant capable de détruire des satellites espions. Franck Lefebvre est le directeur du programme Défense à l'ONERA, le laboratoire de recherche aérospatiale.
Des armes laser permettront, depuis le sol, de détruire ou d'éblouir un satellite à plus de 400 km d'altitude. On a déjà fait des tests avec un prototype de laser et c'est relativement concluant.
Il y a environ 2000 satellites au-dessus de nos têtes. Ils seront 4 fois plus dans 5 ans. Les menaces s'accumulent, de plus en plus variées, explique le général Friedling, chef du commandement interarmé de l'espace.
Vous avez des menaces de brouillage, d'espionnage, vous avez des satellites kamikazes, vous avez des satellites qui peuvent projeter des substances toxiques pour opacifier un capteur. On a également des satellites qui peuvent venir avec des bras articulés pour arracher un élément d'un autre satellite et puis le tuer en fait.
Pour protéger, la priorité c'est de bien voir et surveiller, d'où la modernisation du GRAV, le radar d'observation français le plus performant en Europe, capable aujourd'hui de voir des objets de la taille d'une machine à laver. Dans 10 ans, il en verra de la taille d'une boîte à chaussures.
Précision d'Aude Leroy, on la prend par un tweet de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, une présidente de la cour d'assises des Yvelines, agressée ce matin à son domicile. Ça s'est passé vers 9h30. Deux hommes ont sonné à sa porte, lui ont tiré dessus avec ce qui semble être un flashball. La magistrate a été hospitalisée à Paris. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les deux hommes sont activement recherchés par les gendarmes.
Il est 12h48. Vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on va s'intéresser maintenant, Pierre, à Judith Décapitant Holoferne.
Oui, cette toile découverte il y a 5 ans dans un grenier de Toulouse, depuis entourée de mystères, est-elle signée de Caravage? De nombreux experts disent oui, d'autres sont plus dubitatifs. Cela n'empêchera pas ce tableau exposé à partir d'aujourd'hui à Toulouse d'être vendu aux enchères à la fin du mois et il peut partir à 150 millions d'euros. Diane Chinoda.
La lumière, les couleurs, la violence de la scène, Judith, l'héroïne de la Bible qui venge son peuple, tout est du Caravage pour l'expert Éric Turquin.
Pour moi, il ne peut pas y avoir de doute. Et nous pouvons prouver que ce tableau n'est pas une copie, donc bien sûr que c'est un Caravage. À cause de l'extraordinaire beauté du visage de Judith, cette beauté, elle ne peut pas être l'œuvre d'un copiste ou d'un artiste de troisième rang. Elle est bouleversante, cette Judith, bouleversante.
Les nombreux visiteurs se bousculent devant la toile, émerveillés.
Je suis KO devant ce tableau, quoi. Voilà, c'est extraordinaire. Tous les détails, la scène, c'est typique de Caravage.
C'est vraiment une magnifique composition d'une force, d'une vraie violence, d'une brutalité et d'un traitement plastique exceptionnel.
J'aime les couleurs de feu qui sortent de ce tableau.
Je ne suis pas un expert, mais j'ai vu plusieurs Caravages. Et non seulement c'est un Caravage, mais c'est un excellent Caravage.
Une certitude, il n'ira pas au Louvre, ni dans aucun grand musée français. L'État français, en effet, ne l'achètera pas, car il y a un doute, selon lui, sur l'authenticité de la toile.
Un reportage signé Diane Chénouda avec Arnaud Joly. Et puis toujours dans le vrai faux, la vente aux enchères mercredi du revolver avec lequel Van Gogh aurait voulu se suicider en 1890. Ça se passe à l'hôtel Drouot à Paris. L'arme de la marque Le Faucheux est estimée entre 40 et 60 000 euros.
Il est 12h49.
Europe 1.
Restez avec nous, on va retourner à la reconstitution où Jonathan Daval vient de reconnaître avoir brûlé le corps de son épouse. Et puis on va aussi s'intéresser à un nouveau défi pour les footballeuses tricolores et au départ peut-être de Neymar. Le PSG ouvre la porte. À tout de suite.
Il est 12h52 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Ça se passe plutôt bien pour les Bleus du foot. Dites-moi Pierre, notre tricolore joue ce soir contre le Nigeria.
Oui, 29 000 spectateurs attendus au stade Roizen de Rennes, guichet fermé, il n'y a plus de place, Julien Froment. Vous êtes à Rennes, pas de calcul hein, pour les Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Elles visent pour autant la perfection, Julien.
En effet, Pierre, l'objectif est clair, réaliser le sans faute. 3 matchs, 3 victoires pour les Bleus. Alors leur adversaire du soir, le Nigeria, est certes la meilleure nation du continent africain, mais l'équipe de France a de quoi être sereine. Sa dernière confrontation avec les Super Falcons s'était soldée par un large succès 8-0. Mais ce soir, à 21h, au stade de Rennes, on ne risque pas d'assister à une telle avalanche de buts. La sélectionneur Corinne Diacre.
Le match précédent est loin aujourd'hui. Très très loin. Le Nigeria depuis a énormément travaillé. Le match sera complètement différent, d'autant plus que le Nigeria peut espérer se qualifier avec ce dernier match. Donc ce sera un match âpre. Voilà, on s'attend vraiment à un match difficile.
Les Bleus vont faire un peu tourner leur effectif. 4 joueuses nouvelles devraient débuter, histoire de faire souffler les cadres. Mais l'objectif reste le même, la victoire. la milieu de terrain, Élise Busaglia.
Moi, je veux pas être dans le calcul. De toute façon, on a un troisième match à faire. J'espère qu'on va le gagner. J'espère qu'on va continuer sur une dynamique positive de victoire. Et puis on verra après, c'est peut-être les autres équipes qui feront des calculs. En tout cas, nous, mis à part gagner et penser à la victoire, on n'a rien d'autre à espérer.
Et en cas de succès ce soir, eh bien, les Bleus réaliseraient alors leur meilleur parcours en phase de poule d'une Coupe du Monde. De quoi faire le plein de confiance avant de disputer les matchs à élimination.
Merci Julien Froment, soirée spéciale des 20h avec Lionel Rousseau sur Europe 1, match en direct et en intégralité.
Le foot encore et toujours avec cette fois le départ de Neymar du PSG.
Ça fait quelques longues semaines qu'on vous en parle. La fin de saison pour lui est à tout le moins compliquée. Et la nouveauté, Simon Rubin, c'est qu'apparemment, le club parisien ne serait pas très réticent à laisser partir la star brésilienne.
Non, effectivement, une décision qui serait venue directement de Doha, du Qatar, les propriétaires du PSG, qui commencent à se lasser de Neymar, ou du moins y a-t-il une forme de ras-le-bol depuis qu'il est au club. Le joueur alterne, certes, de grands matchs, mais aussi des performances beaucoup moins brillantes. Il s'est blessé deux fois, à chaque fois au moment des matchs décisifs de Coupe d'Europe. Il y a eu aussi quelques sorties nocturnes médiatisées, l'altercation avec un supporter en finale de coupe, les accusations de viol maintenant qui pèsent contre Neymar et puis un comportement qui agace les coéquipiers au sein du vestiaire. Ça commence à faire beaucoup. Ce matin, le journal L'Équipe évoque également la lassitude du joueur lui-même qui ne serait pas non plus rétif à l'idée de quitter Paris et pourquoi pas revenir en Espagne. On sait que Barcelone serait sensible à un retour de son ex-star, le Real Madrid, pourquoi pas. Parmi les autres clubs candidats, il y a aussi Manchester, le Bayern, mais il faut savoir que si Neymar doit partir, ce ne sera pas donné. Le PSG l'avait acheté plus de 220 millions d'euros et en attendrait à peu près autant. Problème, c'est que depuis, Neymar a perdu 30% de sa valeur. De quoi, et ça on le savait déjà, mais on en a la confirmation, présager d'un été très agité du côté du PSG.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Il est 12h55 sur Europe 1. Le journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et on revient sur les lieux de cette reconstitution du meurtre d'Alexia Daval dans le bois d'Emelin avec justement de nouveaux éléments puisque le procureur de la République vient de s'exprimer, Raphaël Duchemin.
Oui, le procureur qui a donné des détails. La version a manifestement encore évolué. Il explique, le procureur de la République de Besançon, qu'il fallait absolument le mettre face à ses incohérences. C'est ce qui a donc été fait ce matin, comme l'explique Étienne Mantoux.
Monsieur Daval continuait à nier avoir porté atteinte au corps de son épouse et face notamment à la demande pressante de ses beaux-parents qui l'ont imploré de dire toute la vérité. Et après un temps d'échange avec ses conseils, M. Daval a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort à Alexia Daval, mais qu'il avait également procédé à cette crémation partielle du corps.
Voilà donc pour les mots du procureur de la République de Besançon. J'ajoute que la mère d'Alexia Daval vient de déclarer « Nous voulions la vérité, nous l'avons eue ».
On vous retrouve dans quelques instants, Pierre, pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h57. Europe 1.
Et vous restez avec nous. Bien sûr, on vous emmène en avant-première découvrir quelques-unes des innovations que vous verrez à la deuxième édition de la Clean Tech Week d'Annecy. A tout de suite.
Et il est temps de faire un point sur la météo de ce lundi, Raphaël Duchemin.
Et c'est une belle semaine qui commence, Elina.
Le temps est bon, le ciel est bleu.
Et oui, le temps est
Je
bon,
ne
le ciel
pas,
est
sinon
bleu.
Sinon, ça va changer.
Pour quasiment tout le monde, de nuances cet après-midi. La Bretagne et de l'Île-de-France au Nord-Pas-de-Calais avec quelques nuages inoffensifs. La deuxième nuance, c'est sur les reliefs Pyrénées-Orientales, Alpes et la montagne russe avec un tout petit risque d'averse en soirée. Des températures estivales partout jusqu'à 33 degrés cet après-midi à Nîmes et Avignon. On aura 30 à Bordeaux et Lyon, 28 à Bourges et Marseille, 27 à Paris et Strasbourg, 26 à Lille, 25 à Rennes, 19 à 23 seulement, de Boulogne-sur-Mer à Quimper.
Le temps est bon.
Demain, ce sera un peu moins bon, un peu moins bleu sur le nord-ouest avec des orages assez forts attendus entre l'Île-de-France et le nord, mais des températures toujours très chaudes.